Vous écoutez On lit pour vous.
Tabou, la fin de vie. Une chronique signée Nathalie Collard, publiée dans la presse du 13 avril 2026. Que signifie mourir dans la dignité aujourd'hui? Dans Club Sandwich Mayonnaise, une pièce de théâtre documentaire à l'affiche, on réfléchit à voix haute à la mort, au deuil et à l'aide médicale à mourir, une pratique plus répandue au Québec que partout ailleurs sur la planète. Est-ce que mourir dans la dignité implique automatiquement l'aide médicale à mourir au Québec? Peut-on mourir dignement autrement? Ce sont des questions que soulève Club Sandwich Mayonnaise, une pièce de théâtre documentaire présentée jusqu'à samedi prochain à l'usine C. Produite par le théâtre Porte-Parole, derrière l'excellent J'aime Hydro, la pièce est l'œuvre de Manuelle Légaré, fille de l'humoriste Pierre Légaré, qui a demandé l'aide médicale à mourir en 2021. Club Sandwich Mayonnaise, ce sont les mots prononcés par Pierre Légaré avant sa mort. Des mots un peu absurdes qui tranchaient avec la gravité du moment et qui n'ont pas facilité ce passage déjà très difficile pour sa fille qui a trouvé l'expérience de l'aide médicale à mourir traumatisante. On comprend, en voyant la pièce, que Pierre Légaré n'a pas eu les discussions qui auraient permis à ses proches de mieux accepter sa décision. En cela, il était un homme de sa génération. Si connaître l'heure de la mort d'un être cher est traumatisant, je dirais qu'attendre son dernier souffle sans l'aide médicale à mourir l'est tout autant. La mort, c'est rough. Et comme ce n'est pas notre projet de conversation préféré, on se retrouve à vivre notre deuil avec les moyens du bord. Manuelle Légaré a généreusement transformé le sien en œuvre théâtrale dans laquelle elle partage ses émotions et ses réflexions intimes avec le public. L'intérêt de Club Sandwich Mayonnaise, ce sont toutes les questions que celle qui est rédactrice en chef de « Tout le monde en parle » soulève et qui ouvre une conversation essentielle. Par exemple, le choix de l'aide médicale à mourir en est-il toujours un, ou serait-ce parfois la conséquence du manque de place documentée dans les maisons de soins palliatifs? Une question pertinente dans le contexte où la population québécoise est vieillissante. À partir de son expérience, la fille de Pierre Légaré, qui précise qu'elle n'est pas opposée à l'AMM, se demande également si la famille devrait être considérée lorsqu'un proche réclame l'aide médicale à mourir. Je crois que c'est une décision qui ne regarde que la personne concernée, mais il faudrait sans doute publiciser davantage l'aide offerte aux proches dans les hôpitaux. Intervenants spirituels et travailleurs sociaux sont là pour les accompagner. Est-ce qu'on pourrait aussi penser à des intervenants spécialisés en aide médicale à mourir, une sorte de père aidant, qui accompagnerait les familles? La pièce de théâtre fait aussi réfléchir à l'environnement dans lequel est administrée l'aide médicale à mourir. Une chambre d'hôpital, ça peut être sinistre. Certains choisissent de recevoir l'aide médicale à mourir à la maison, à l'hôtel ou au chalet. En 2023, il y a eu une levée de boucliers quand on a appris que l'AMM était prodiguée dans un salon funéraire de la Montérégie. Personnellement, je n'étais pas choqué. Je crois que ça répondait à un besoin. Devrait-on penser à des maisons de décès comme il y a des maisons de naissance et qui seraient différentes des maisons de soins palliatifs? La question se pose. Après la première de la pièce, mercredi dernier, le public était convié à une discussion passionnante, mais beaucoup trop courte, en présence de la marraine de l'aide médicale à mourir, l'ex-ministre Véronique Yvon, et de la psychologue Nathalie Platte. J'étais contente d'entendre Mme Yvon rappeler que l'AMM est le fruit d'un long travail parlementaire suivi d'une vaste consultation. Ce n'est pas quelque chose que la société québécoise a décidé à la légère. On a pris le temps de réfléchir et d'en débattre sereinement. Est-ce que ça veut dire que la conversation est close? Absolument pas. Je ne crois pas qu'il y ait un tabou autour de l'AMM. Je pense plutôt qu'on développe un réflexe de défense ou de protection lorsque quelqu'un dit vouloir en débattre. On ne peut pas faire abstraction du vent de conservatisme et de la montée du religieux dans les sociétés occidentales ces temps-ci. la montée de la droite et de l'extrême droite pourrait menacer ce droit nouvellement acquis de choisir le moment de notre mort lorsque la fin de vie approche. En France, les partis plus à droite sur l'échiquier politique ont tous voté contre le projet de loi sur la fin de vie. La semaine dernière, dans ce journal, on se demandait pourquoi le Québec est un champion de l'AMM. J'aime penser que nous sommes les champions d'une forme de liberté ultime, parce que nous sommes une société mature, capable de réfléchir à des questions profondes. Pour cette raison, je ne dirai jamais qu'on banalise l'aide médicale à mourir au Québec. Ce serait faire fi du cheminement et de la réflexion de tous les gens qui y ont eu recours et pour qui cette décision n'a sûrement pas été banale. Personnellement, je ne sais pas ce que je ferais, mais je sais que je veux vivre dans une société où j'ai ce choix. Cela étant dit, on peut discuter du contexte dans lequel ces décisions se prennent. Dans une province où les hôpitaux tombent en ruine, où les CHSLD sont perçus comme des mouroirs et où les personnes âgées sont trop souvent vues comme un fardeau, il y a des questions à se poser. On remercie Manuel Légaré d'avoir ouvert la discussion. Fin de cette chronique de Nathalie Collard titrée « Tabou, la fin de vie ». Publié dans la presse du 13 avril 2026.
Hantavirus, plusieurs cas contacts à faible risque identifiés au Québec. Un texte de Chloé Bourquin, publié le 13 mai 2026 dans la presse. Plusieurs Québécois sont considérés comme des cas contacts suite à l'éclosion d'hantavirus survenue à bord du navire de croisière MV Ondius. Mais ils ont un faible risque de développer l'infection, insiste la santé publique qui se veut rassurante sur la situation. La santé publique continue de suivre la situation de très près, a affirmé le ministère de la Santé et des Services sociaux. MSSS, dans un communiqué publié à ce sujet. Jusqu'à maintenant, aucun cas d'hantavirus lié à cette éclosion n'a encore été confirmé dans la province, et personne sur le bateau n'était résident du Québec. Mais plusieurs cas contacts à faible risque ont quand même été identifiés dans la province, bien qu'il n'ait pas eu de contact direct ni prolongé avec un cas confirmé, toujours selon le MSSS. Plus précisément, une personne est considérée comme à faible risque de contracter l'infection si elle a été en contact avec une personne à haut risque. Les personnes à haut risque sont, par exemple, celles qui ont pris le même vol qu'un passager mort par la suite après avoir contracté le virus. Ces cas contacts à faible risque devront effectuer une autosurveillance de leurs symptômes pendant 42 jours suivant leur dernière exposition, mais non pas à s'isoler tant qu'ils ne présentent pas de symptômes. À l'inverse, plusieurs cas contacts considérés à haut risque ont dû s'isoler dans d'autres provinces au Canada, comme en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Un suivi est assuré de façon préventive par les directions régionales de santé publique. Par ailleurs, un appel à la vigilance et un avis d'InfoSanté ont été diffusés auprès des professionnels de la santé. Le risque pour la population québécoise demeure très faible, est-il souligné dans le communiqué. C'était Hantavirus, plusieurs cas contacts à faible risque identifiés au Québec. Un texte de Chloé Bourquin, publié le 13 mai 2026 dans la presse.
Le mammouth s'est remis à marcher. Un texte de Francis Vaille, paru le 2 mai 2026 dans la presse. Les médias sont remplis d'anecdotes dramatiques à propos du réseau de la santé du Québec. de l'attente interminable aux urgences, au délai inadmissible de traitement de certains cas de cancer, tout y passe. Or, pris dans son ensemble, le réseau de la santé affiche plusieurs éléments d'amélioration notables des services, avec, en prime, une situation budgétaire stabilisée, tant et si bien que le réseau est redevenu aussi performant qu'avant la pandémie. Vous me direz que ce portrait positif est forcément biaisé puisqu'il m'a été dressé par la vice-présidente aux finances de Santé Québec, Sonia Dugas. Vous n'avez pas complètement tort, mais force est de constater que plusieurs voyants sont au vert, selon les renseignements qui m'ont été transmis en toute transparence. D'abord, Santé Québec commence l'année financière sans déficit à résorber, ce qui ne s'était pas vu depuis quelques années. À pareille date l'an dernier, Santé Québec devait réduire ses dépenses de 925 millions de dollars par rapport à la tendance qui se dessinait. Or, les économies se chiffreront plutôt aux environs de 1,1 milliard et même un peu plus. Les derniers chiffres de l'exercice terminé le 31 mars 2026 ne sont pas encore disponibles. Au pire, le déficit final avoisinerait 250 millions, soit environ 0,5% du budget de quelque 45 milliards de Santé Québec. L'exercice d'optimisation de 2025 avait frappé en particulier 9 des 30 centres hospitaliers du réseau. La situation est moins difficile cette année, avance Mme Dugas, puisqu'aucun des 30 centres n'aura un budget moindre que celui de l'année qui se termine, selon les enveloppes qui leur ont été transmises. Certains voient leur budget augmenter de seulement 0,5%. Cependant, ce sont des établissements dont les coûts sont généralement plus élevés que la moyenne. Parmi eux figurent le CHU Sainte-Justine, le CISSS de la Côte-Nord et le CIUSSS du Centre-Sud de l'île de Montréal. En revanche, d'autres voient leur budget augmenter de plus de 7%, comme c'est le cas du CISSS de Lanaudière. Au total, le budget de l'ensemble de Santé Québec atteindra 46,4 milliards en 2026-2027, en hausse de 3,5% par rapport à l'année qui se termine. A-t-on charcuté les services pour y arriver? Pas selon ce qu'affirme la VP aux finances de Santé Québec, au contraire. Et elle a plusieurs indicateurs pour le démontrer. Par exemple, à la fin de l'année budgétaire, 12 633 personnes âgées étaient en attente d'un premier service de soutien à domicile. C'est encore beaucoup, mais c'est en baisse de 27,5% par rapport aux 17 432 personnes de 2025. Même genre d'amélioration pour l'accès aux services de santé mentale. Quelque 74% des demandeurs ont eu un premier service dans les délais prescrits, contre 66% en 2025. Les services jeunesse, environ 69% avaient eu accès à un service dans les délais prescrits à la fin de mars 2026, contre 64% un an plus tôt. Quant à la chirurgie, les patients en attente d'une opération depuis plus d'un an sont maintenant au nombre de 3 969, près de deux fois moins qu'il y a un an, 7 121, et surtout, il s'agit d'un retour au niveau d'avant la pandémie. On a consolidé le réseau. Ce n'est pas parfait, mais on a fait de grands pas. Et pour moi, c'est phénoménal. C'est un travail collectif sans précédent. On a une dynamique de collaboration étroite avec nos équipes. Ce n'est pas que financier, bien que le modèle financier soit un levier incroyable pour miser sur les bons comportements, me dit Sonia Dugas en entrevue. Mais comment a-t-on fait plus avec moins ? En 2025, la direction de Santé Québec avait constaté que sur les 10 milliards ajoutés dans le réseau depuis la pandémie, seulement 18% s'était traduit par une hausse des volumes de services offerts. Le reste s'expliquait par les coûts du système, 32%, mais surtout par une baisse de productivité, 35%, c'est-à-dire des coûts moyens par service offert plus élevés. Santé Québec a donc passé au peigne fin les dizaines d'activités des centres hospitaliers, administration, imagerie, urgence, prélèvement, aide à domicile, etc., et constater des écarts dans le coût de prestation des services. On a donc demandé aux centres plus coûteux de ramener à la moyenne les coûts de leurs activités. Un an plus tard, l'exercice semble avoir donné des résultats, puisque plusieurs des centres n'ont pas à refaire la même chose en 2026. Parmi les gestes posés, des centres hospitaliers ont réduit les délais entre les interventions chirurgicales dans les blocs opératoires, le montage et le démontage des salles. De plus, certains centres en manque de capacité ont transféré des volumes en chirurgie à d'autres qui pouvaient les prendre, pour diverses raisons. C'est ça la force du réseau, dit Madame Dugas. Pour le service à domicile, un meilleur séquençage des visites a été établi, permettant une réduction des temps de déplacement routier entre chaque logement visité et une augmentation du nombre de visites. Santé Québec a aussi, bien sûr, réduit de façon draconienne le recours aux coûteuses agences privées, surtout pour des infirmières, grâce à une réorganisation interne du travail. Au cours de l'année 2025-2026, les agences se sont vues octroyer seulement 3,2 millions d'heures de travail, soit trois fois moins que les 9,9 millions d'heures de l'année précédente et huit fois moins que les 24 millions d'heures de 2024. En somme, on a réduit le coût unitaire des services. Ce travail d'augmentation de la productivité n'est pas terminé. Mais Sonia Dugas a bon espoir que les améliorations se poursuivront en raison de l'approche de Santé Québec et des efforts de collaboration du réseau. Organisation des budgets. Avant, les sommes allouées à chacun des établissements hospitaliers étaient basées sur leur budget passé sans aucun lien avec les volumes de services offerts. Or, désormais, 44% des budgets sont alloués en fonction des volumes de services réalisés. On sert plus de patients ? On obtient plus. Cette année, Santé Québec a raffiné sa comparaison des coûts moyens des services de chaque établissement, y ajoutant une composante socio-démographique qui tiendra compte de la lourdeur des patients. Autre nouveauté, une partie du budget, 24%, sera désormais allouée selon la dépense attendue pour 16 activités différentes tirées des meilleures pratiques du réseau. Voilà un portrait qui fait réfléchir. Les cas inadmissibles rapportés dans les médias reflètent certainement des carences de notre réseau. Mais force est de constater que le mammouth qui accueille 140 000 usagers par jour recommence à avancer. C'était « Le mammouth s'est remis à marcher », un texte de Francis Vaille, paru le 2 mai 2026 dans la presse.
Stradivarius d'Angèle Dubois. Le ministre Lacombe a passé outre l'avis des experts. Un texte de Patricia Tadros, paru le 4 juin 2026 sur Ici Radio-Canada. Le Conseil du patrimoine culturel du Québec s'est fermement opposé au déclassement du violon Stradivarius Desrosiers et de l'archet Tourte appartenant à Angèle Dubois. Malgré cet avis, le ministre Mathieu Lacombe a procédé au déclassement le 17 avril dernier, menaçant l'avenir de ces objets patrimoniaux. Dans l'avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec remis au ministre de la Culture dans le contexte du déclassement lancé le 12 septembre 2025, l'organisme a prévenu le ministre qu'un tel retrait constituerait une perte inestimable pour le Québec et ouvrirait la porte à la vente de ces objets à l'étranger ou encore à leur muséification, les privant ici de leur fonction première. La motivation de cette demande de déclassement semble répondre uniquement à un intérêt pécuniaire privé, peut-on lire dans le document obtenu par Radio-Canada par l'entremise d'une demande d'accès à l'information. La valeur du Stradivarius Desrosiers se situe entre 15 et 30 millions de dollars. Perte de patrimoine et de rayonnement. L'achat du violon et de l'archet en 1946-1947 avait été rendue possible par une souscription populaire et le soutien financier de l'industriel Ludger Simard. Le déclassement trahirait, selon l'avis, ce geste philanthropique initial, dont le but explicite était de mettre un instrument de classe mondiale à la disposition des grands violonistes d'ici, tels qu'Arthur Leblanc et plus tard Angèle Dubot. La vente de l'instrument à l'étranger par sa propriétaire, s'il s'avérait, priverait la transmission de cet instrument à de nombreux jeunes violonistes qui ont aussi besoin aujourd'hui d'un instrument d'exception pour développer leur carrière et faire rayonner le Québec, dit-on. L'ethnologue et professeur au département de musique de l'UQAM, Hans Bartna, abonde dans le même sens. C'est le genre d'instrument qui peut permettre à un musicien en début de carrière ou en milieu de carrière d'accéder au haut du panier de l'élite mondiale, dit-il. Avec l'envolée des prix, ellipse, et je ne pense pas que ça va s'arrêter, ça rend de plus en plus inaccessible des instruments de cette valeur-là pour des musiciens de grand talent qui en auraient besoin pour accéder à un autre niveau dans leur carrière. La valeur historique du violon et de l'archet tient à leur fabrication par des artisans de renom et à leur utilisation par de grands virtuoses, comme le violoniste acadien Arthur Leblanc et le polonais Henri Wieniawski pour l'archet. Le Conseil du patrimoine culturel souligne que les raisons du classement en 1978 n'ont pas changé. Au contraire, peut-on lire, les valeurs associées n'ont fait que croître. Gains de notoriété, présence médiatique, fierté collective issue d'un attachement collectif à la carrière de deux artistes aimés du public. Le classement protège, en fait, cet instrument-là de simplement devenir fugitif et de partir vers un marché de collectionneurs, que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis, explique Francis Lapointe, historien et doctorant en muséologie, médiation et patrimoine à l'UQAM. Si on se positionne maintenant, près de 50 ans plus tard, et qu'on décide d'une façon plutôt discrétionnaire de déclasser un instrument, à mon sens, il y a un enjeu ici par rapport à la notion même de classement, souligne-t-il. Selon l'historien, très peu d'instruments de musique sont classés au Québec. On a classé certains orgues. Les orgues sont beaucoup moins marchandables, si je peux dire. Ce sont des instruments beaucoup plus volumineux, beaucoup plus massifs et beaucoup moins désirés aussi en termes de marché à l'international, mentionne-t-il. C'était peut-être un de nos seuls instruments de haut prestige qu'on avait sur notre territoire et qui était inscrit également dans une trajectoire patrimoniale au Québec. Le classement. C'est Gertrude Leblanc, épouse d'Arthur Leblanc, qui a demandé l'intervention du ministère des Affaires culturelles de l'époque afin d'empêcher que le violon et l'archet se retrouvent entre les mains de collectionneurs étrangers. Cette demande a été faite en août 1977, soit un mois après qu'Arthur Leblanc eut loué ses instruments à Jules Dubot, le père d'Angèle, alors jeune prodige. Le cabinet du ministre Lacombe qualifie le déclassement du violon de décision réfléchie, visant à corriger une anomalie historique. À l'origine destinée à être transmis de prodige en prodige par l'entremise d'une souscription des années 1940, l'instrument a finalement dû être acheté par la violoniste Angèle Dubot. Reconnu unique propriétaire par le tribunal, elle en a financé seule l'entretien et l'assurance durant toute sa carrière, écrit le cabinet du ministre. Or, dans l'avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec, on rappelle que le ministère des Affaires culturelles de l'époque avait autorisé cette vente, à condition que l'acquéreur respecte les contraintes du classement historique. Il y a donc une responsabilité morale de l'État et de la propriétaire d'arriver à poursuivre sa destinée en respectant l'esprit du contexte d'acquisition par le Comité pour le bon parler français et celui de la demande de classement de Gertrude Leblanc en 1978. Éviter qu'il devienne un violon muséal, Faire en sorte qu'ils soient joués par des artistes québécois pour aider notre relève musicale à haut potentiel et pour maintenir l'accès du public d'ici à un chef-d'œuvre reconnu internationalement, conclut le Conseil du patrimoine culturel du Québec. Le fait que le violon Desrosiers et l'archet Tourte n'aient pas été fabriqués au Québec n'est pas exceptionnel, explique le Conseil. De nombreux objets classés au patrimoine québécois proviennent de l'étranger, France, Angleterre, États-Unis, etc., qu'il s'agisse de livres, d'œuvres d'art, de meubles ou d'artefacts. Le Conseil a été saisi de 9 lettres et messages, ainsi que de 6 demandes d'audition. Ces interventions émanent aussi bien du grand public que de spécialistes de la musique classique, de chercheurs universitaires et de collectifs de protection du patrimoine. Le Conseil rappelle qu'il ne faut pas oublier le geste philanthropique de l'UJ Simard. Le déclassement de ce violon entièrement payé par des fonds publics viendrait à dévaluer cette initiative de mécénat à l'heure où l'on tente activement de valoriser la philanthropie culturelle. Le Conseil formule des recommandations, dont le démarrage d'une banque d'instruments de musique au CALQ, inspirée d'initiatives comme celle du Conseil des arts du Canada. Le déclassement, rappelle l'avis du Conseil, est un geste exceptionnel qui exige une précaution extrême, notamment pour évaluer les risques à grande échelle sur le patrimoine du Québec en raison du précédent créé. Radio-Canada a sollicité une réaction d'Angèle Dubois concernant une éventuelle vente de ses instruments, mais celle-ci est restée sans réponse. La chronologie. Le 13 octobre 1977, Arthur Leblanc signe une promesse de vente en faveur des entreprises Paganina, propriété de Jules Dubois, pour un prix maximum de 160 000 $ versé sous forme de rente viagère. Le 2 septembre 1978, le classement est effectif. Le 28 mai 1984, la vente du violon et de l'archet entre Arthur Leblanc et le père d'Angèle Dubois a lieu avec effet rétroactif au 12 février 1978. C'était Stradivarius d'Angèle Dubois. Le ministre Lacombe a passé outre l'avis des experts. Un texte de Patricia Tadros, paru le 4 juin 2026 sur Ici Radio-Canada.